Yes. Bonjour à tous, bonjour à toutes. C'est une joie d'être là avec vous et merci Fabrice, ça me parle parce qu'il y a des prédications. Vous savez que voilà, donc ça se construit petit à petit. Et là, c'est vrai que j'ai vraiment reçu quelque chose d'assez fort pour ce matin. Alors, j'ai plusieurs questions à vous poser. Je vais vous faire un peu participer et je vais vous parler un peu de mémoire. Alors, c'est pas le titre de mon message, mais juste pour vous donner un petit teasing. Est-ce que ça vous est déjà arrivé que quand on vous raconte un souvenir d'enfance ou peut-être moins loin, t'as beau réfléchir et t'as du mal à te souvenir, dire, mais tu te rappelles pas lorsque t'as fait ça, je dis écoute, je suis désolé, ça me dit rien du tout. Est-ce que ça vous est aussi déjà arrivé, merci, que quelqu'un vous croise, alors là c'est un peu gênant, quelqu'un vous croise, hey, salut Olivier, ça va? Oui, ça va. Et alors qu'il te parle, tu sais que tu le connais, mais tu ne sais plus qui c'est. Et tu dis oui, alors, tiens. Et puis il commence à te parler. Et tu dis Seigneur, s'il te plaît, aide-moi à me rappeler qui c'est déjà. Et donc tu parles. Et puis au bout d'un moment, tu dis bon, là, c'est trop. Non. Écoute, je suis vraiment désolé, mais est-ce que tu peux me dire où est-ce qu'on s'est rencontrés? Parce que j'ai un gros trou. Et c'est très gênant. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Hein, je pense que oui. Et voilà. Et encore pire, parfois, là, c'est un peu plus ingrat aussi. Parfois, il y a des gens. Voilà, qui viennent te voir, tu sais, lorsque tu étais petit, je me s'occupais de toi, j'ai pris du temps, tout ça, et c'est très dur, tu dis merci, mais tu n'as aucun souvenir. Et pareil, c'est un peu ingrat pour ces personnes qui ont pris du temps pour nous, qui se sont occupées de nous, qui nous ont rendu service, et on oublie. Et c'est vrai que la mémoire, c'est puissant, c'est extraordinaire, Dieu nous a tous donné une mémoire, mais elle est mystérieuse. Il y a des choses que l'on retient, il y a des choses que l'on oublie. Et parfois, ben voilà, ça nous met dans ces situations-là qui ne sont pas confortables. Mais le Seigneur nous parle beaucoup de mémoire et nous parle beaucoup de souvenirs dans la parole de Dieu. Et donc, on va en parler. Alors, je répète, hein, ce n'est pas le sujet de mon prêche ce matin, mais vous verrez, vous comprendrez de quoi je veux parler ce matin. Mais d'après l'ICERM, la mémoire, c'est la fonction qui nous permet d'encoder, conserver et restituer des informations pour interagir avec notre environnement. Elle rassemble nos savoir-faire, nos connaissances, nos souvenirs indispensables à la réflexion, à la projection de chacun dans le futur. Elle fournit la base de notre identité. Le Seigneur, comme je vous l'ai dit, nous a créés avec une mémoire, avec des souvenirs. Et pourquoi je vous en parle ce matin, c'est que quand je disais « Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire ce matin à ton peuple? Qu'est-ce que tu veux me dire aussi ?» En fait, il m'a parlé de souvenirs. Il m'a parlé qu'en fait, il a donné des règles, il a donné des commandements pour que le peuple de Dieu se souvienne des choses. Parce que l'homme est oublieux. Il y a combien de choses dans ma vie, je dis ça, c'est sûr, je n'oublierai jamais. Et puis les années passent, il dit, attends, il me semble qu'il s'était passé quelque chose il y a 8 ans ou 9 ans. Et en fait, c'est terrible, mais il y a des souvenirs qu'on pensait ne jamais oublier et qu'on oublie. Et il est bon de se rappeler les choses, de se souvenir de ce que Dieu a fait dans nos vies, de ne pas être oublieux, mais de se rappeler que notre identité, elle est basée en Jésus-Christ. Nous sommes fils et filles de Dieu, et le Seigneur veut nous appeler à être de bons gestionnaires de ce qu'il a fait dans nos vies. Combien de paroles prophétiques, combien d'encouragements, combien de choses extraordinaires nous avons vécues dans notre vie et que nous avons pu oublier. Pourquoi ? Parce que nous n'avons pas été de bons gestionnaires à écrire, à faire en sorte de se souvenir de ce que Dieu a fait dans nos vies. Je vous invite à prendre votre Bible dans Deutéronome 6, verset 10. Deutéronome, verset 10, on va lire la parole de Dieu pour comprendre. « Lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer dans le pays qu'il a promis par serment à tes ancêtres Abraham, Isaac et Jacob, tu y trouveras de grandes et belles cités que tu n'as pas bâties, des maisons remplies de toutes sortes de biens que tu n'as pas amassés, des citernes taillées dans le roc que tu n'as pas creusées, des vignes et des oliviers que tu n'as pas plantés. Lorsque tu mangeras et que tu seras rassasié, écoutez bien au verset 12, garde-toi bien d'oublier l'Éternel qui t'a fait sortir d'Égypte, du pays où tu étais esclave. C'est l'Éternel ton Dieu que tu dois révérer, c'est à lui que tu rendras un culte et c'est par son nom que tu prêteras serment. » Et puis ça continue. Et puis on retrouve au verset 20, « Lorsque plus tard vos fils et vos filles vous demanderont de quel droit l'Éternel, notre Dieu, vous a-t-il imposé ses ordonnances, ses lois et ses décrets, vous leur répondrez, nous avons été esclaves du Pharaon en Égypte et l'Éternel nous a tirés de là avec puissance. Il a accompli sous nos yeux des signes miraculeux et de grands prodiges pour le malheur de l'Égypte, du Pharaon et de tous ceux de son entourage. » Pour ceux peut-être qui sont là pour la première fois, je rappelle juste l'histoire. Il y a un peuple qui est le peuple d'Israël et qui a été captif, qui a été esclave pendant plus de 400 ans en Égypte. Il était durement traité, il devait faire des briques, faire beaucoup de monuments. Et tous les jours que Dieu faisait, c'était des jours pénibles, c'était des jours difficiles. Ils étaient en esclavage. Il faut vraiment se mettre dans le contexte. C'était une corvée. Je pense que ce nom vient peut-être de là-bas. C'était vraiment quelque chose de difficile. Et Dieu et le peuple d'Israël qui croyait en un Dieu unique, qui croyait en un Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, a crié à lui. Et il est dit un peu plus loin que, en Exode 3, verset 7, l'Éternel dit : j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel. Dieu, dans sa toute puissance, a fait venir les 10 plaies d'Égypte au point que Pharaon n'a pas eu d'autre choix que de laisser aller le peuple et de le laisser partir. Et le peuple d'Israël est parti. Donc a été délivré de cet esclavage, a été délivré de cette oppression, et il est parti dans le désert en route vers ce pays promis, vers cette promesse que le Seigneur avait donnée, là où coule le lait et le miel. Mais ce qu'on voit, c'est que alors que les années passent, on se rend compte, quand vous lisez Exode, et je vous invite chez vous à prendre le temps de lire l'histoire du peuple d'Israël, parce que c'est vraiment assez choquant, je trouve, et même assez énervant parfois, en tout cas pour moi, de voir que le peuple, à chaque fois, se rebelle, à chaque fois murmure. Il y a Moïse, qui a été désigné par Dieu, aussi avec son frère Aaron, et peut-être d'autres, après aussi il y a 70 responsables, puis ensuite d'autres chefs, mais Moïse a vraiment été choisi pour conduire ce peuple vers ce pays promis. Et on voit tout le murmure que le peuple d'Israël a, donc au point qu'ils en arrivent même à avoir certaines réflexions assez surprenantes. Ils disent dans Exode 16, verset 12, « Et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Les enfants d'Israël leur dirent, « Que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte ?» Ou dans d'autres termes, pourquoi nous ne sommes pas morts dans le pays d'Égypte quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangions du pain à satiété ?» Leur mémoire, c'est de se dire, en Égypte, j'avais du pain à satiété, j'avais de la viande. Ils ont occulté le fait qu'ils étaient esclaves. Ils ont occulté le fait qu'ils étaient frappés, qu'ils étaient fouettés, qu'ils vivaient vraiment de l'oppression difficile. Et eux, tout ce qu'ils se rappellent dans ces moments difficiles, alors qu'ils sont dans le désert, dire, mais en fait, Seigneur, en fait, eh ben, ma condition d'avant, elle était meilleure. Et je vous pose cette question, est-ce qu'on n'est pas comme eux ? Moi, parfois, quand je lis l'histoire du peuple d'Israël, pour être honnête, je dis, mais est-ce qu'ils sont stupides ? Est-ce qu'ils sont, mais presque, ils sont pénibles. Ils passent leur temps à murmurer. Ils passent leur temps à dire, mais avant, c'était mieux. Et quand on s'arrête un peu sur nos vies, on se rend compte qu'on n'est pas mieux. Je ne suis pas mieux. Combien de fois je dis, Seigneur, avant, c'était mieux. Avant, il y avait quelque chose de meilleur. Alors que le Seigneur m'a amené dans des nouvelles saisons, dans des nouvelles choses, on est en train de regarder au passé, de regarder, presque on préférait être esclave qu'être libre comme aujourd'hui. Et il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Il en est de même du livre des juges. C'est toujours le peuple d'Israël, mais si vous lisez, c'est toujours la même histoire. En fait, on voit le peuple d'Israël qui est oppressé par Madian, par d'autres persécuteurs. Ils crient à l'Éternel. L'Éternel leur envoie un juge, Samson, Gédéon, Déborah et tant d'autres, ils sont délivrés et après ils se remettent à pécher, ils se remettent à adorer d'autres dieux, ils se remettent à vivre comme le dit Jus souvent, et chacun vivait comme il lui semblait bon, et ils retombent vraiment dans leur nature pécheresse, dans des mauvaises choses qui les amènent à être malheureux et à être à nouveau oppressés. Ils crient à Dieu, Dieu les délivre. Ils retombent dans l'idolâtrie, dans des mauvaises choses. Ils sont oppressés, ils crient à Dieu. Vous voyez, c'est des schémas qui se répètent tout au long de ce livre de Juges que je vous invite aussi à lire. Et en fait, on se rend compte qu'il y a des schémas qui se répètent dans la Bible, mais aussi dans nos vies. Si on est honnête, chacun ici, on est souvent similaire à ce peuple incrédule et ingrat. Combien de fois nous nous plaignons de notre condition, de ne pas avoir ci, de ne pas avoir ça. Il pleut, on se plaint d'être mouillé. Il fait beau, il fait trop chaud. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Dieu nous a libérés du pouvoir, du péché et de la mort. Il nous a offert la vie en abondance, la vie éternelle dès à présent. Et on a besoin de cultiver la reconnaissance, d'être reconnaissant. Si tu vis aujourd'hui, c'est par grâce. Tout ce que tu as, c'est par grâce. Ça nous vient de lui. Il n'y a rien que nous ayons, il n'y a rien que nous sommes qui sont grâce à nous, qui sont grâce à quoi que ce soit. C'est grâce seulement à Dieu que tu te tiens en vie aujourd'hui. Et on a besoin que notre mentalité, que notre façon de penser change. Au lieu de se plaindre, au lieu d'être dans le murmure, et lui, t'as vu, il n'a pas fait ci, et moi, j'ai pas ça, et de toute façon, j'ai et c'est toujours de ces indices en boucle. Soyons dans la reconnaissance, même si aujourd'hui, tu as que 5 pains et 2 poissons, même si aujourd'hui, tu es dans l'extrême pauvreté, tu peux juste dire merci Seigneur pour la vie. Merci Seigneur pour mes enfants, merci Seigneur pour mon conjoint, merci Seigneur parce qu'il fait beau, merci Seigneur parce qu'il y a tellement, merci pour la nature, il y a tellement de sujets de reconnaissance. Et on a besoin de cultiver une mémoire reconnaissante, de se souvenir de ce que Dieu a fait. Il y a ce chant qu'on connaît, compte les bienfaits. Compte les bienfaits de Dieu et tu verras en adorant combien ils sont grands. Combien de bienfaits le Seigneur nous donne. Dieu est juste. Et je vais vraiment encourager plusieurs ce matin parce que je reçois ça dans mon cœur. Dieu n'a pas de chouchou. Ou je peux le tourner dans l'autre sens, nous sommes tous ses chouchous. Nous sommes tous ses favoris. Il n'y a pas de gens qui sont plus bénis. Il n'y a pas de gens qui sont plus ci, plus ça. Dieu ne fait pas d'exception de personne. Il a dit... Car Dieu a tant aimé le monde, il n'a pas dit juste, car Dieu a tant aimé telle ou telle personne. Dieu aime tout le monde. Dieu veut que tout homme soit sauvé. Nous sommes ses créatures, c'est lui qui nous a créés. Et il ne fait pas d'exception de personne. Que tu sois blanc, que tu sois noir, que tu sois égyptien, que tu sois français, peu importe ta culture, peu importe si tu vis aujourd'hui, c'est que Dieu t'a voulu en vie et qu'il t'aime. Et je veux vraiment, vraiment tuer ça un peu dans l'œuf, de croire que, ben voilà, il y a certains, ben il y a tout qui est facile. Vous savez, on a tous les mêmes problèmes. On a tous les mêmes défis. Ils se manifestent peut-être différemment. Peut-être que certains, ça sera plus dans ton couple, et avec tes enfants, peut-être au travail. Mais quand on regarde sur les 40 dernières années, je suis sûr que si je m'adressais donc à tous les soixantenaires ici, et si vous vous réunissiez, je dirais, alors, est-ce que tu as eu des problèmes dans ton couple? Tout le monde dirait, oui. Est-ce que tu as eu des problèmes avec tes enfants? Oui. Est-ce que tu as eu des problèmes dans ton travail? Oui. On a tous les mêmes travails à certaines différentes saisons de nos vies. Il y a des saisons où on a l'impression que tout se passe bien et il y a des saisons où on a l'impression, je ne crois pas à la loi des séries, mais que tout s'enchaîne et que tout part en explosion. On vit tous ces moments-là. Mais même dans les moments difficiles, nous avons besoin d'apprendre à cultiver la reconnaissance, de revenir en fait au point de départ, de revenir à cette place de repos, de dire « Seigneur, aujourd'hui c'est dur, aujourd'hui je vis des difficultés, mais je choisis de te louer, je choisis de te dire merci pour ce que j'ai à manger aujourd'hui, je choisis de te dire merci pour ma condition d'aujourd'hui. » Parce que Paul, notre cher Paul, notre frère Paul dans la Bible, nous dit que c'est dans la faiblesse que s'accomplit la puissance du Seigneur. Même quand tu es faible, tu es fort, même... Au milieu de ta faiblesse, au milieu de tes difficultés, le Seigneur vient agir puissamment et vient révéler qu'il est le Dieu qui peut tout, qu'il est le Dieu de l'impossible, qu'il est le Dieu des miracles. Alors soyons reconnaissants. Si on ne veille pas, on est vite dans la plainte au lieu d'être dans la reconnaissance de tout ce que Dieu a fait dans nos vies. Et c'est pour ça que Dieu a donné ses commandements et qu'il a dit, et je le lirai donc un peu plus tard, toujours dans Deutéronome 6, donc au début, il dit, « Et tu l'inculqueras à tes enfants, lors de tes trajets, le matin, le soir, le midi, tout le temps. » En fait, on a besoin de cultiver ça. Et il y a un autre verset qui parle de chacun de nous, dans Éphésiens 5, qui dit, « Entretenons-nous par des psaumes, par des cantiques spirituels, chantant à la gloire de Dieu. » On a besoin de s'entretenir. Moi, le premier, des fois, je passe par des bas, mais que ça fait du bien quand j'ai mon papa, il me dit « Allez mon fils, Dieu est bon, Dieu est avec toi et tu vas y arriver. » Et on prie ensemble et il m'entretient ça. Et puis moi je vais pouvoir entretenir peut-être ma femme et puis inversement. Et c'est ça, on a besoin de s'entretenir
dans le Seigneur et de cultiver cette mémoire de reconnaissance. Seigneur, merci. Les bontés de Dieu se renouvellent chaque matin. Elles ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Ce matin encore, il y a des bontés pour chacun d'entre nous. Mais on a un choix. Dieu nous rend responsables. Et on ne peut pas blâmer Dieu. Tous les matins, nous avons le choix de dire, est-ce que je choisis de me plaindre, de murmurer, ou est-ce que je choisis de louer le Seigneur et de le remercier pour ce qu'il veut faire aujourd'hui et pour ce qu'il a fait dans le passé. Et je vais même loin, on peut même être prophétique, et je veux le bénir d'avance pour ses bénédictions futures. Nous avons un choix, les amis, tous les matins. Est-ce qu'on va faire partie de ces moutons qui se plaignent tous les matins et qui font qu'aujourd'hui on sent cette ambiance un peu néfaste et négative, ou est-ce qu'on choisit de dire non, aujourd'hui je veux être un ou une changeuse d'atmosphère. Même si tout le monde se plaint, je veux dire ok, j'entends vos plaintes, mais Dieu est bon. Moi je choisis de me réjouir dans le Seigneur. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Paul, il a dit, je le répète, juste au cas où, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Dieu est bon. Dieu est bon. Comment faire pour cultiver cette mémoire reconnaissante? Comment faire pour ne pas oublier ce que Dieu a fait dans nos vies? Quelques principes qui ne sont pas exhaustifs. Méditons la parole de Dieu tous les jours et inculquons-la à nos enfants premièrement et à tous ceux qui ont soif. Méditer la parole de Dieu, c'est quoi? C'est lire la Bible, pas seulement comme un livre, comme un énième livre, mais c'est la méditer, ça veut dire c'est la ruminer, c'est prendre le temps qu'elle vienne s'imprégner en nous. La parole de Dieu, elle est là pour corriger, édifier, encourager. C'est ce que la parole nous dit dans 1 Timothée ou dans 2 Timothée, c'est cette parole de Dieu, elle sert à ça. Et donc on a besoin de s'en nourrir, parce que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Plus nous plongeons dans la parole de Dieu tous les jours et la partageons à notre famille, plus nous rappelons à notre mémoire et à celle de nos enfants que Dieu est souverain et que lui seul est digne de gloire. Et je nous encourage à mémoriser la parole de Dieu. Les versets, ça permet au Saint-Esprit de rappeler à notre mémoire les versets au moment opportun que notre âme a besoin d'entendre. Quand on connaît la parole de Dieu, quand on s'imprègne de celle-ci, ben c'est comme s'il y a des versets. Combien de fois, dans les moments difficiles, je me suis réveillé ou je n'étais pas bien et il y a ce verset qui est venu, ou il y a ce chant parfois qui est venu. Récemment, je passais par un moment difficile au travail, et je dis « Seigneur, j'ai tellement besoin de toi ». Et j'ai ce chant qui m'est venu, je ne sais pas si vous le connaissez. « je m'appuie sur toi, et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend fort ». Ça m'a fait du bien. J'ai dit « Seigneur, je me sens tellement faible aujourd'hui, mais tu me rends fort ». Non par mes propres forces, mais par ton esprit seulement. Méditons la parole de Dieu. Et je vous le relis, Deutéronome 6, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Que ces commandements que je te donne aujourd'hui restent gravés dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras chez toi dans ta maison et quand tu marcheras sur la route, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras, qu'ils soient attachés comme un signe sur ta main et comme une marque sur ton front. On a besoin de s'encourager. Et c'est pour ça qu'on est là ce matin, mais on se voit aussi peut-être en dehors, que ce soit au travail, que ce soit dans les braises, que ce soit dans nos familles, dans nos rencontres. Vraiment, encourageons-nous dans la parole de Dieu. On a besoin que cette parole soit proclamée et nous soit encore redite et redite, afin, pas seulement qu'on l'entende, mais qu'elle vienne pénétrer notre cœur et qu'elle vienne nous faire du bien. Je suis sûr qu'ici, tout le monde va sûrement lever la main. Si je vous dis, est-ce que ça vous est déjà arrivé que quelqu'un vous dise un verset et c'était ce verset que vous avez besoin d'entendre? Et là, waouh, ça fait tellement du bien, Seigneur, j'étais perdu. Et d'un coup, il y a cette parole qui vient à point nommé, clac, et qui vient comme tout ouvrir là. Et ça fait un bien de dire, Seigneur, merci, c'était le mot, la parole que j'avais besoin d'entendre. C'est ça que ça fait, la parole de Dieu. Ça nous touche, ça nous corrige, ça nous édifie, ça nous encourage, ça nous aide en fait à rester alignés avec le ciel, à rester alignés avec la volonté du Seigneur. Je nous rappelle ces paroles. Autant le ciel est éloigné de la terre, autant mes pensées, ça c'est Dieu qui parle, sont éloignées des vôtres, autant mes voix, c'est toujours Dieu qui parle, sont éloignées de vos voix.
On a besoin en fait de rester aligné parce qu'on peut vite. J'avais bien aimé l'image de Alexandre qui parlait de cette barque, vous savez, qui est là, qui est accrochée, puis tout doucement, donc on ne s'en rend pas compte, mais on se réveille un jour et puis on est à 30 mètres du bord. On a besoin de rester réveillé et de s'assurer qu'on est toujours aligné avec ce que Dieu veut dans nos vies. La parole de Dieu 1, comment garder cette mémoire reconnaissante, comment ne pas oublier ce que Dieu a fait dans nos vies. Partageons régulièrement nos témoignages de ce que Dieu a fait dans nos vies et soyons nous-mêmes un témoignage vivant de la puissance de Christ. Je le répète souvent, et Matt aussi, mais cette église, elle a été fondée sur un des versets forts dans Ecclésiaste 3.15, qui est « Ce qui est aujourd'hui a déjà été dans le passé, et ce qui sera dans l'avenir a déjà été. Et Dieu fait revenir ce qui a disparu. » On avait et on a toujours la conviction que les réveils spirituels qui ont eu lieu il y a plusieurs centaines d'années se produisent et vont se reproduire encore ici. Ce que Dieu a fait dans le passé, il veut le refaire. Quand je témoigne, quand je déclare, ça donne l'opportunité au Seigneur de refaire ce qu'on a témoigné. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. On a besoin de rappeler à notre âme, mais rappelle-toi mon âme, voici ce que Dieu a fait. Dieu fait tellement de choses extraordinaires. Rappelons à notre âme par le témoignage ce que Dieu a fait. Apocalypse 12, verset 11, « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. » Votre témoignage est une puissance. Et comme je l'ai dit, donne l'opportunité à Dieu de refaire ce qu'il a fait dans le passé. Il rappelle à ceux autour de nous que Dieu est puissant et qu'il peut tout. Et ça rappelle aussi à notre âme. Mon âme, loue le Seigneur. Loue le Seigneur. Vendredi soir, chaque vendredi soir, puis le samedi, on prend une journée de sabbat, de repos avec la famille. Je fais une courte parenthèse, mais je vous y encourage. C'est un des commandements, c'est un des 10 commandements. Tu observeras le jour du sabbat. Et je crois que c'est bon, et même les non-croyants vous diront que c'est bon pour notre cerveau, c'est bon pour notre corps, c'est bon pour notre cœur. Dieu, quand il dit quelque chose, c'est toujours pour le meilleur. Prenez ce temps de repos, que ce soit le samedi, que ce soit le dimanche, que ce soit un autre jour dans la semaine, mais vraiment prenez ce temps pour vous délecter de la présence de Dieu, de prendre du temps avec votre famille, de prendre du temps pour vous aussi. La vie, c'est un tourbillon et on a besoin de s'arrêter. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. C'est important de prendre ce temps de repos. Et c'est quelque chose, nous, qu'on expérimente depuis le Covid et franchement, qui nous bénit. Je ne sais pas dans quel état je serai aujourd'hui si on n'avait pas mis ce temps de sabbat, de 24 heures de repos en famille. Que ça fait du bien, ça nous rafraîchit, ça nous renouvelle, ça permet d'avoir les idées claires, de prendre du temps en couple, avec les enfants, avec le Seigneur. Donc je nous encourage, c'est pas quelque chose que seuls les leaders ou seules certaines personnes doivent vivre, mais c'est un commandement, c'est un encouragement pour chacun d'entre vous, chacun d'entre nous. Vivons ces temps de repos en famille, c'est tellement avec le Seigneur, c'est précieux. Et donc du coup, durant notre vendredi soir, souvent c'est la fête à la maison, les enfants, donc on a instauré ça, c'est l'occasion de partager un peu qu'est-ce que Dieu a fait dans notre semaine, de témoigner. Et on a témoigné chacun ce que Dieu a fait. Et puis, je ne sais pas, ça m'est venu comme ça, alors que je savais que je prêchais sur ça. J'ai dit, tiens, les enfants, ça m'intéresse. Quel est, d'après vous, le plus grand miracle que papa a vu dans sa vie? Et là, instinctivement, ils ont tous répondu, lorsque ta jambe a repoussé. Et ça m'a trop touché de me dire qu'à force de leur raconter tout ce que Dieu fait dans ma vie, pareil pour Elo, ils se souviennent de ce qui a marqué ma vie et qu'ils répondent comme ça du tac au tac. Ça m'a vraiment touché. Alors, je ne sais pas si vous voulez entendre ce témoignage. Mais j'avais prévu de vous le partager. Mais c'est pour vous dire que je sais que la vie de mes enfants est marquée à tout jamais parce que j'ai expérimenté le miraculeux dans ma vie. C'était en 2009 et bien sûr, il n'y a pas eu que cet événement, mais moi, ça a marqué ma vie à tout jamais. C'était en 2009. Plusieurs églises organisaient ce qu'on appelait RDV, rendez-vous. Et donc, on allait une semaine à Gagnères. Justement, nous y serons la semaine prochaine. Donc, c'est pour nous beaucoup d'émotions de retourner là-bas, un peu type RDV, même si c'est que pour le week-end. Et il y avait Terry Virgo qui a démarré donc, la famille d'église Une Nouvelle Frontière il y a plusieurs dizaines d'années. Et nous avions l'honneur de l'avoir comme prédicateur durant cette année-là.
Et Thierry, on a chacun des dons particuliers ou en tout cas des onctions particulières. Et lui, c'était justement pour tous ceux qui avaient mal au dos. C'est souvent donc, lorsqu'il priait, il se passait quelque chose. Et donc, il dit, qui a mal au dos ? Moi, donc à l'époque, je faisais pas mal de foot, tout ça. Et c'est vrai que j'avais souvent très mal au dos. Et puis, on était plusieurs potes aussi à avoir mal. Il dit, ben, asseyez-vous. Donc, je me suis assis, je vous montre, sans tout faire tomber. Je me suis assis comme ça. Et qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que j'avais une jambe qui était comme ça. Vraiment, c'était comme ça. Il a dit, vous voyez, souvent, lorsque vous avez mal au dos, c'est parce qu'il y a une jambe qui est plus courte que l'autre. Et donc, il a dit, ben, je vais prier pour vous et votre jambe va repousser. Il a prié pour moi, c'était celle-là, je me rappelle encore. Et j'ai senti quelque chose qui tirait comme ça. J'ai ouvert les yeux et mes deux jambes étaient comme ça. Elles étaient complètement alignées et ma jambe avait complètement repoussé et je n'ai plus eu mal au dos. Jusqu'à aujourd'hui, alors parfois comme tout le monde, quand on fait un peu trop, voilà, mais vraiment, j'ai pas mal au dos du tout, c'est une grâce, je sais que plusieurs parfois de mes copains peuvent avoir mal, je lui dis, voilà, c'est un cadeau, et vraiment, j'ai vécu le miraculeux, voir ma jambe repousser, c'était extraordinaire, puis on était plusieurs, j'ai vu des dizaines de guérisons comme ça ce jour-là, et c'est pour vous dire que ça a marqué ma vie, mais ça a aussi du coup marqué la vie de mes enfants. Faisons de même, témoignons, rappelons à nos enfants tout ce que Dieu a fait dans nos vies. On ne sert pas un Dieu qui est lointain, un Dieu qui peut-être un jour nous sauvera. On sait qu'il nous sauve par la foi, mais son royaume est déjà là. Il agit aujourd'hui et on a besoin de le témoigner. La puissance du témoignage, je le répète, ça donne l'opportunité à Dieu de faire de même. Dieu est tellement bon. Et j'aimerais encourager les jeunes particulièrement. Je me tourne là, les jeunes, j'en vois pas mal. En fait, nous sommes tous jeunes, n'est-ce pas ? Mais vous savez, il y a plein de choses dont je suis fier. Je me dis, ah, je suis content, Seigneur, merci, quelle grâce de tout ce que j'ai vécu, tout ça. Mais il y a une chose où, franchement, je me dis, à refaire, je ferai différemment. Je n'ai pas été sérieux dans écrire les choses. Je ne sais pas si c'est masculin, féminin, peu importe. Mais moi, en tout cas, j'avais souvent la flemme d'écrire les paroles qu'on m'a données, d'écrire ce que j'ai vécu. Et franchement, je le regrette amèrement. Parce qu'heureusement, ma femme m'a sauvé sur plein de choses parce qu'elle écrivait souvent. Donc, j'ai pu retrouver. Mais moi, j'ai très peu écrit. Et je me dis, c'est bête. Je comptais sur ma bonne mémoire. Et comme je vous l'ai dit donc en début de prêche, en fait, on oublie les choses. Donc, je vous encourage, les jeunes, écrivez tout ce que vous vivez, toutes les choses fortes que le Seigneur fait dans votre vie, tous les moments clés, dire « Waouh, quand j'étais à la conférence Echo, j'ai vécu ça, quand j'étais à The Go Rencontre, j'ai vécu ça, quand j'étais ici, donc à Connect, donc quand j'ai vécu ça, dans ma chambre. » Écrivez tout ce que vous vivez, parce que quand vous allez ressortir un jour votre cahier, et vous allez dire « Oh, mais c'est dingue !» J'avais vécu ça, et ensuite ça, et je me posais telle question, et je ne savais pas ce que j'allais faire dans mon avenir. Et je priais pour mon futur mari. Et en fait, tu vois toutes les bénédictions du Seigneur, et ça permet de mettre en pratique ce que la parole de Dieu nous encourage, c'est de se remémorer, c'est de compter les bienfaits de Dieu. Écrivez, et bien sûr, c'est pour les jeunes, mais aussi pour nous tous, d'écrire, écrivons ce que Dieu fait dans nos vies. Ça permet de réouvrir et de s'en rappeler. Et moi, personnellement, c'est quelque chose que je fais depuis quelques mois. Je suis beaucoup plus sérieux. Donc, on m'a offert pour mes 40 ans donc un gros cahier comme ça, donc avec un stylo. Et maintenant, j'essaie vraiment d'être sérieux, pas tous les soirs, mais voilà, au moins chaque semaine, d'écrire ce que Dieu fait dans ma vie, mais aussi mes interrogations, mais aussi mes défis. Parce que j'ai déjà vu dans les derniers mois, j'ai écrit des choses. Waouh, Seigneur, il y a tel jour, j'étais pas bien, j'étais inquiet, et regarde Seigneur, tu as ouvert les portes, et tu m'as béni, et ça permet de louer le Seigneur, et de voir la puissance de Dieu dans ma vie. Donc écrivons les choses, ne soyons pas flemmards comme moi, ne soyons pas oublieux, écrivons les choses, ça permet de se souvenir. Donc deuxièmement, c'était le témoignage, et troisièmement, n'oublions pas d'où nous venons, et quelle était notre condition avant que Dieu intervienne. Et ceux qui chantent et ceux qui dansent s'écrient, toutes mes sources sont en toi. Psaume 87, verset 7. On oublie. Des fois, on crie à Dieu, mais comme le peuple d'Israël, on crie à Dieu, Seigneur, je suis dans la détresse, c'est dur ou quoi, ça va mieux. Et parce que ça va mieux, ben, on devient donc oublieux, on se dit, oh, ben, c'est bon. Donc on prend les choses un peu à la légère et on oublie en fait que le Seigneur nous a sortis d'une situation difficile. Et quand on se retrouve 1 an, 2 ans, 3 ans, 6 ans face à la même situation, parfois on est immature. Dieu nous a sauvés il y a 6 ans et on va se plaindre, on dit, mais Seigneur, comment je vais faire ? Et puis d'un coup, il dit, je te rappelle qu'il y a 6 ans, tu étais dans la même situation, est-ce que je ne t'ai pas délivré ? Ah oui, c'est vrai, Seigneur. Soyons des hommes et des femmes matures. En écrivant, ça permet de se rappeler, de dire, c'est vrai Seigneur, parce que tu m'as délivré il y a 3 ans, 4 ans, je sais que tu as le pouvoir de le faire encore aujourd'hui. Et ça, on a besoin de grandir en maturité pour ne pas être des chrétiens, pour ne pas être des bébés spirituels qui, ben, dès qu'il y a un problème, donc qu'on est inquiet, pétard, le Seigneur habite en nous, donc il peut toute chose. Et s'il a fait une fois, il peut... Eh oui, pétard, c'est... Eh ouais, moi je viens de Nîmes, c'est pour ça. Donc c'est de se souvenir de ce que Dieu a fait et de, voilà, grandissons en maturité afin de ne pas être dans la crainte, dans la peur, mais soyons dans la foi. Une foi inébranlable dans le Seigneur. Parce qu'on le sait, nous tout seuls, on ne peut pas faire les choses. C'est seulement par sa puissance, c'est seulement grâce à lui qu'on peut avancer et que les choses se décantent et qu'on voit sa main extraordinaire qui agit dans nos vies. Et moi, j'aime le dire à mon entourage, j'aime vous le partager, des fois je me répète, mais durant ces dernières années, j'ai vécu tellement de choses fortes et je vais vous en dire juste certaines, mais pour vous encourager, parce que j'aimerais nous lancer ce défi un peu, que chez nous, on puisse écrire 5 choses dans les 20 dernières années que Dieu a faites d'incroyables. Écrivez, Seigneur, merci, je veux te dire merci pour ça, pour ça, pour ça. Et voyez ici, ça, c'est plein d'écrits, de témoignages. Et je remercie Luc, mon cher ami Luc Perret, pour cette belle initiative. Mais on veut continuer d'écrire les témoignages et que ce bâtiment soit couvert de témoignages de tout ce que Dieu a fait. Et à ces 10 ans de Connect, on va témoigner, les amis. On va célébrer ce que Dieu a fait. Parce qu'en 10 ans, on a vu des choses extraordinaires, des centaines de guérisons, de conversions, de miracles. Vraiment, Dieu a fait tellement de belles choses et on ne veut pas être ingrat. Mais on veut se rappeler ce que Dieu a fait. Aujourd'hui, je veux témoigner ma rencontre avec ma femme Élodie. C'était un miracle il y a 18 ans. Quelle joie et quelle grâce d'être marié à ma femme Élodie. C'est un cadeau. Merci Seigneur pour ces 3 enfants. Je veux vraiment bénir le Seigneur pour ce qu'il a fait dans ma vie. Lorsqu'on est parti donc en Angleterre, donc avec les Trèfcons, donc on a pu implanter cette église il y a 10 ans et on va fêter ça, mais qu'est-ce que le Seigneur a fait des choses extraordinaires. Quand on est rentré d'Angleterre, j'étais au chômage, j'ai crié à Dieu, et bien 10 ans après, quand je me tourne, je dis, waouh, mais Seigneur, tout ce que tu as fait, Dieu a ouvert les bonnes portes au bon moment. Il y aurait tellement à dire, les amis, je fais court parce que j'ai peu de temps, mais il y aurait tellement à célébrer. Dieu est bon et fidèle. Nous, on change. Nous, parfois, Seigneur, pardon, des fois, donc on est tellement ingrat, mais lui ne change pas. Sa nature ne change pas. Il est bon et fidèle. Et toujours la parole de Dieu nous dit que sa fidélité s'étend de génération en génération. De génération en génération, sa fidélité ne s'arrête pas. Et je veux dire, quelqu'un ici, j'ai cette parole pour toi. Parfois, tu te dis, oui, mais moi, je n'ai pas été fidèle. La parole de Dieu est claire. Même si nous ne sommes pas fidèles, lui demeure fidèle. Ce qui est beau, c'est que le Seigneur ne nous aime pas en fonction de ce qu'on fait ou de ce qu'on ne fait pas. Il nous aime juste parce qu'il nous a créés et parce que nous sommes ses enfants. Et ça nous enlève un poids, ça ne veut pas dire qu'on va faire n'importe quoi de notre vie, parce qu'il nous a confié quelque chose et on veut que notre passage sur terre soit le plus beau, soit le plus percutant, puisse remplir la mission qu'il nous a donnée. Mais on le fait d'une place de repos. Non pas dans le stress, dire il faut. Seigneur, d'abord, je le fais d'une place d'aimer, je le fais d'une place de racheter, d'adopter, choyer, de fierté. Dieu est fier de nous. Et de cette place-là, je peux aller accomplir tout ce que Dieu me demande de faire. En conclusion, ne soyons pas oublieux, les amis, mais entretenons-nous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels chantant et célébrant de tout notre cœur les louanges du Seigneur. Rendons continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Entretenons-nous par des psaumes, par des témoignages, par tout ce que je vous ai partagé. Continuons vraiment de célébrer et de déclarer tout ce que Dieu fait pour nous ensemble, mais pour nos enfants, pour tous ceux qui sont dehors. Le monde a besoin d'entendre que Jésus est vivant et qu'il peut changer leur vie. C'est par l'amour de Dieu que ça peut changer leur vie. Et moi, je rencontre tellement de personnes dans mon travail qui sont dans le désespoir, dans leur entreprise, dans leur famille, avec leurs enfants qui ne leur parlent plus. Ils ont besoin de l'amour du Père qui vient leur dire, mon fils, ma fille, je t'aime et je peux changer ta vie. Crois en moi, n'aie pas peur, mais crois seulement. Amen. Je vais inviter Thomas, si tu es disponible, à me rejoindre. Et puis on va prier ensemble. J'avais reçu plusieurs paroles, je vous invite à fermer les yeux, les amis. J'avais reçu plusieurs paroles, je suis navré, il y a certaines paroles, elles sont un peu... Voilà, je vous les délivre comme je l'ai reçu. Parce que je crois que le Seigneur veut libérer ce matin. Le Seigneur veut libérer ce matin et il veut guérir des cœurs. Je sens qu'il y a plusieurs personnes ici. Tu es blessé. Et tu es en colère. Je veux guérir ton cœur. C'est le temps de lâcher prise. Tu as été maltraité dans ton enfance. Tu as reçu des coups. Et à ton tour, tu veux rendre des coups. Parce que tu as cette colère au fond de toi. Je te donne l'opportunité ce matin de lâcher cette colère. Afin que tu ne répondes plus par des coups, mais que tu répondes par l'amour. Mais cela, ce n'est possible que si tu es transformé de l'intérieur. Alors mon frère, ma sœur, si aujourd'hui tu sens comme une colère, presque une haine qui est en toi contre ces personnes qui t'ont fait du mal, c'est le temps de libérer le pardon. Je rappelle que libérer le pardon, ce n'est pas excuser ce qui a été fait. C'est terrible ce que tu as vécu. Mais de dire, Seigneur, j'abandonne la justice entre tes mains. J'abandonne ma colère entre tes mains. Le premier ou la première qui va être libérée, c'est toi. Et tu peux confesser de ta bouche et dire, Seigneur, je choisis de pardonner. Et tu peux mettre le prénom derrière. Afin que tu sois libéré de ces chaînes qui t'ont tellement fait de mal jusque-là et qui ont fait du mal à ta famille. Je vois qu'il y a un homme ici, ça fait souffrir ta famille. Tes blessures passées font souffrir ta famille. Lâche cette colère, lâche cette violence. Ce n'est pas ce chemin-là auquel le Seigneur t'appelle. Il veut libérer sa paix dans tes pensées et dans ton cœur. Alors reçois. Reçois sa paix. Reçois sa guérison. Il vient restaurer. C'est le temps de pardonner à ton Père. Et je t'invite à le confesser de ta bouche, là où tu es, à ta place. Juste de dire, Seigneur, je choisis de pardonner à mon Père pour tout le mal qu'il m'a fait, pour toute la violence qu'il a déployée sur moi. Tous les coups que j'ai reçus, Seigneur, tu les connais. Et je te dépose cette colère et cette haine que j'ai contre lui. Donne-moi la force de lui pardonner. Et pardon pour tout le mal que je fais à ma famille aujourd'hui. Donne-moi la force de les aimer, d'en prendre soin. Avec un nouvel amour, un nouvel élan. Amen. J'avais aussi reçu que... J'ai parlé un petit peu d'orgueil. Parfois... Le peuple d'Israël péchait par orgueil. Et on peut aussi, nous, des fois, pécher par orgueil parce qu'on est sorti de notre détresse. Et bien, la vie va mieux et parfois, on peut s'empêtrer dans l'orgueil de croire que c'est grâce à nous que nous en sommes là. N'oublie pas, mon frère, ma sœur. N'oublions pas que c'est grâce à Dieu si nous en sommes là. Dieu fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. Le Seigneur te dit, qu'as-tu que tu n'aies reçu ? Tout ce que tu es, tout ce que tu as vient de Dieu. Humilie-toi sous la puissante main de Dieu et au temps convenable, il t'élèvera. Et sans que c'est le temps pour plusieurs de se repentir, d'avoir cru ce mensonge que c'est grâce à toi si tu en es là aujourd'hui. Humilie-toi sous la puissante main de Dieu, repens-toi de ces pensées orgueilleuses. La seule fierté que tu peux éprouver, elle est dans le Seigneur, de dire waouh, quelle grâce Seigneur, que je suis fier de t'appartenir, que je suis fier Seigneur d'être appelé ton enfant. Mais ne t'enorgueille pas de ta condition, de ce que tu es devenu, mais rends gloire à Dieu. Et j'avais reçu aussi dans un temps de prière que j'ai pris, qu'il y a quelqu'un ici qui vient d'une famille qui a été utilisée puissamment pour un réveil il y a plusieurs dizaines d'années. L'ennemi s'est déchaîné depuis et il y a comme un courant froid qui s'est déversé sur ta vie et celle de ta famille tout particulièrement. Le Seigneur veut répandre maintenant un courant chaud et il veut faire remonter la température de ta vie et celle de ta famille. Il veut libérer un feu nouveau en te baptisant à nouveau de feu et d'esprit. C'est comme si tu t'es refroidi. La parole de Dieu nous met en garde que l'amour du plus grand nombre se refroidira, et alors que tu as vu plein de miracles, vu des choses extraordinaires, il y a comme ce feu qui est parti et ça s'est refroidi. Le Seigneur veut réveiller ta vie et celle de ta famille. Et on va prier pour ça après. C'est le temps de te lever pour ta famille et de proclamer et même prophétiser ces paroles sur ta vie et celle de ta famille. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Dieu veut faire jaillir sa lumière sur ta vie et sur la vie de ta famille. Si ces paroles te parlent, je t'invite à te lever. J'aimerais qu'on puisse prier pour toi, prier pour ta famille. Tout ce que j'ai listé, je ne voulais pas faire le lever nominalement parce que ça peut être très gênant. Mais si toutes ces paroles te parlent, tu as été maltraité dans ton enfance, l'orgueil, tu fais partie d'une famille où tu as vu des choses extraordinaires et c'est comme si ça s'est éteint. Je t'invite à te lever, j'aimerais vraiment prier pour toi. Alléluia Seigneur, merci. Et si tu sens que tu as été un peu oublieux ces dernières années et que le Seigneur vraiment te ramène en ce moment plein de choses, plein de prodiges qu'il a fait dans ta vie, je sens que le Seigneur et que tu as envie en fait d'être meilleur gestionnaire de ce que Dieu fait dans ta vie, je t'invite aussi à te lever. Je sens que c'est comme une levée symbolique de dire Seigneur, je veux arrêter d'oublier, je veux arrêter de vivre toujours les mêmes schémas. Comme le peuple d'Israël, tu as l'impression en fait de vivre toujours les mêmes schémas. Tu cries à Dieu, il te délivre, tu retombes dans le confort ou dans des péchés et puis tu recrées à Dieu et c'est comme si tu as l'impression d'être pas mieux en fait que le peuple d'Israël, même si on est tous pareils, hein. Mais tu sens que ça te parle particulièrement, je sens que le Seigneur veut te toucher ce matin. Alléluia. Je vous invite à ouvrir vos mains. Saint-Esprit, merci pour ta présence, merci parce que tu veux toucher les cœurs ce matin. Tu vois toutes ces personnes qui sont levées. Fais ton œuvre dans leur vie et dans leur famille. Alléluia Seigneur. Merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci parce que tu peux changer le cours de notre existence Seigneur. Et je prie Seigneur pour tous ceux Seigneur qui sentent comme une colère, qui sentent comme un cri qu'il y a au fond d'eux et qui a besoin de sortir Seigneur. Merci de les libérer maintenant de cette colère, Seigneur. Au nom de Jésus, je prie vraiment que tout ce qui les tient captifs, Seigneur, sorte maintenant, qu'ils soient complètement libérés de ces chaînes de honte, de culpabilité, de ces chaînes qui les emprisonnent, Seigneur. Tu fais sauter le verrou de leur prison. C'est le temps de sortir de cette prison de colère, de haine. Tu sais qu'il y a... Il y a comme ce cri qui a besoin de sortir. Laisse-le sortir ce matin. Laisse vraiment le Saint-Esprit agir au fond de toi. Parce qu'il veut t'apporter la paix. Alléluia Seigneur. Nous brisons Seigneur. Nous brisons ces chaînes de colère au nom de Jésus. Alléluia Seigneur. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Tu libères ton peuple, Seigneur. Tu libères ton peuple. Alléluia. Oh, Seigneur. Laisse sortir. Laisse sortir. Alléluia, Seigneur. Merci, Seigneur. Tu libères. Tu apportes ta paix, Seigneur. Ta paix qui surpasse toute intelligence et qui garde nos cœurs et nos pensées en toi, Seigneur. Alléluia. Je déclare la paix de Jésus sur ta vie, mon frère, ma sœur. Tu sens comme une chaleur qui vient sur ta poitrine. Tu sens comme une paix. C'est comme un manteau qui descend sur ta vie. Le Seigneur ôte tes anciens habits. Le Seigneur ôte tout ce qui te freinait jusqu'à aujourd'hui. Et il te revêt de nouveaux habits, des vêtements blancs. Et il y a cette paix qui accompagne. Il te revêt d'un vêtement de fête, un vêtement de louange. La joie du Seigneur sera ta force à partir d'aujourd'hui. Les jours de deuil, les jours de tristesse sont finis. Il change ton deuil en allégresse, tes pleurs en cris de joie. Merci Seigneur, parce que tu fais une œuvre nouvelle, une œuvre rédemptrice que personne ne pourra arrêter, Seigneur. Alléluia. Si tu sens que c'est le temps de demander pardon pour l'orgueil qui est dans ta famille, je sens qu'il y a plusieurs personnes ici, tu le sais. Il y a comme un orgueil dans ta famille de tout savoir. Voilà, vous êtes les sachants, tes parents vous ont inculqué ça. La culture générale, c'est important. Et c'est comme s'il y a cette fierté de toujours savoir plus que les autres. Et ça te poursuit et ça t'empêche presque d'avoir des relations proches avec les gens parce que vous êtes très cérébral dans votre famille. Et vous êtes comme rongé par l'orgueil. Le Seigneur veut t'encourager. Si ça te parle, cette parole, je t'invite à te mettre à genoux et de dire, Seigneur, je me repens pour l'orgueil dans ma famille. Je me repens, Seigneur, de toujours me croire supérieur aux autres. Je me repens de croire que je sais mieux que les autres. Comme je l'ai dit, humilie-toi sous la puissante main de Dieu et il te lèvera au temps convenable. C'est le temps de prendre un chemin différent de ta famille. De dire, Seigneur, non, je ne veux pas marcher dans l'orgueil, mais je veux marcher dans l'humilité. Choisis l'humilité ce matin. Si tu sais que tu marches dans l'orgueil, c'est le temps de te repentir et de dire, Seigneur, je fais demi-tour. Je ne veux plus marcher dans l'orgueil, mais je veux marcher dans l'humilité. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Tu brises tout orgueil, Seigneur, dans nos vies, au nom de Jésus, Seigneur. Tu brises l'orgueil, Seigneur. Tu brises l'orgueil. Alléluia, Seigneur. Seigneur, nous ne voulons pas d'orgueil dans nos vies, Seigneur, mais nous voulons marcher dans l'humilité, Seigneur. Et nous faisons le choix, Seigneur, de nous tenir à genoux, parce que nous savons que toute chose nous vient de toi, Seigneur. Pardon pour toutes les fois où nous avons cru, Seigneur, que nous avions réussi par nos propres forces. Pardon pour toutes les fois où nous avons cru que nous savions mieux que les autres, Seigneur. Nous choisissons de marcher dans l'humilité. La parole de Dieu nous dit dans Michée 6, verset 8, « On t'a fait connaître, ô homme, ce que l'Éternel demande de toi, que tu aimes la justice et que tu marches humblement avec ton Dieu. » Seigneur, c'est ce chemin-là que nous choisissons. Marcher humblement avec toi. Alléluia, Seigneur. Et Seigneur, nous te demandons pardon aussi pour toutes les fois où nous avons oublié les prodiges, les miracles que tu as fait dans nos vies. Pardon, Seigneur, toutes les fois où nous n'avons pas été bons gestionnaires de tout ce que tu as fait dans nos vies et on nous a dit des paroles claires, précises, percutantes et on ne les a pas gardées dans notre cœur. On n'a pas fait comme Marie quand l'ange est venue et il est dit qu'elle gardait toutes ces paroles dans son cœur. Sûrement qu'elle devait se les répéter, sûrement qu'elle devait les entretenir. Seigneur, nous voulons être de bons gestionnaires de ce que tu nous donnes. Toutes ces bontés, Seigneur, qui se renouvellent chaque matin, on veut les écrire. On veut se rappeler, Seigneur, ce que tu as fait dans nos vies. Et Seigneur, alors que nous allons célébrer les 10 ans de Connect, Seigneur, on veut se rappeler tout ce que tu as fait au milieu de nous. Merci, Seigneur. Ce n'est pas grâce à Mathieu, Emmanuel, Olivier et Elodie. C'est seulement grâce à ton Esprit Saint, Seigneur. Nous avons été que les participants, nous avons été que ces vases d'argile dans lequel le trésor est certes en nous, mais Seigneur, nous ne sommes que des vases d'argile. C'est grâce à toi, Seigneur, que toute la gloire te revienne, Seigneur. Nous chantons ta gloire, nous proclamons ta gloire, Seigneur. Merci pour tous ces prodiges et ces miracles que tu as fait au milieu de nous, Seigneur. Que toute gloire te revienne au siècle des siècles. Amen, Seigneur.